Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se discute, le magazine mensuel des éclaireuses, éclaireurs unionistes de France. Vous pouvez nous suivre sur 100.7 FM, également sur le site internet de Fréquence Protestante, et vous pouvez réagir en live sur les réseaux sociaux, homo dièse Ça se discute. Merci d'ailleurs à la Toile Scout pour le suivi de notre émission. Ça se discute, une émission pour partager, questionner et suivre l'actualité de notre mouvement. Ça commence maintenant. Qui n'a pas joué à être un pirate, un pompier, une princesse ou un super-héros? Qui n'a pas utilisé sa brosse à cheveux comme un micro ou pris son lit comme un navire voguant vers des terres inconnues? Moi, quand j'étais petite, je m'endormais comme la princesse Aurore attendant son prince. Il a fini par arriver, bon, pas vraiment sur un cheval blanc, mais ça c'est une autre histoire. Imaginez, mieux encore, évoluer dans son imaginaire, se prendre pour un autre. Eh bien, aux éclaireuses, éclaireurs unionistes de France, ça fait partie intégrante de notre pédagogie. On apprend par le jeu. Et oui, se prendre pour des découvreurs, ça fait apprendre des choses. Bon alors oui, on est petit, on imagine, on apprend par le jeu, mais qu'en est-il pour les 12-16 ans nos éclaireurs? Et plus encore, nos aînés. Et les adultes dans tout ça. C'est les responsables qui mettent sur pied ces grands jeux. Ils font vivre des histoires, mais sans y croire. Pourtant, on sait très bien qu'au fond, ils adorent se déguiser en grand mage ou en méchant kidnappeur de princesse, hein. Alors, pour explorer ce monde de l'imaginaire et comprendre son rôle éducatif, nous accueillons ce soir Agnès, bonsoir.
Bonsoir.
Et Athénaïs, bonsoir.
Bonsoir.
Pour m'accompagner et me soutenir dans cette grande première pour moi, Alexis et Paul sont là. Bonsoir les garçons.
Salut.
Salut.
Et Maxine fera sa chronique. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est peut-être l'imaginaire. À quoi ça sert pour les enfants, Agnès?
L'imaginaire, c'est un grand rôle dans le développement des enfants. Ça les aide à développer leur capacité intellectuelle, à gérer leurs émotions, à gérer les relations avec les autres.
Et Agnès, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous dire ce que tu fais dans la vie? Pour bien comprendre tes propos.
Alors, dans la vie aux éclaireurs unionistes, je suis équipière régionale en Yvelines. Et puis, dans la vraie vie, hors des éclaireurs unionistes, je suis psychomotricienne avec des jeunes enfants.
Super. Et toi, Athénaïs?
Dans la vie scout, je suis responsable à la meute de Maison Verte à Paris 18e. Et dans la vie civile, entre guillemets, j'étudie la biologie à la faculté.
Bon, super. Donc tu nous disais, l'imaginaire, est-ce que c'est utile au développement de l'enfant?
Bien sûr, c'est très 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 utile, mais c'est pas tout à fait inné. C'est-à-dire qu'au début, l'enfant il est uniquement sur des sensations, des expériences et la relation avec ses parents. Et puis petit à petit, il va pouvoir développer pas mal de choses. D'abord, il développe l'imitation des adultes. Et puis ensuite, il apprend à faire semblant. Tranquillement, et puis il développe le langage et il arrive progressivement à raconter des histoires, des vraies histoires qu'il a vécues, puis des histoires qu'il invente. Et voilà, et ça arrive quand même assez tard, hein, entre 2 et 3 ans, donc c'est pas tout de suite.
Et du coup, les louveteaux, ils sont encore à fond là-dedans? Ils sont pas un peu vieux?
Ah non, au contraire, c'est l'âge où vraiment l'imaginaire se développe encore plus et où ils sont vraiment en capacité de pouvoir à la fois croire un petit peu aux histoires qu'ils imaginent ou qu'on leur fait vivre et en même temps en sachant finalement assez bien distinguer le réel de ce qui n'est pas vraiment réel.
D'accord, merci. Et selon vous, pourquoi l'utilisation de l'imaginaire est si ancrée chez les scouts, Athénaïs?
Je pense que c'est... Enfin, on s'en sert surtout comme un outil. Étant donné qu'on veut leur faire apprendre, des choses, ça nous permet d'imaginer des situations pour leur faire travailler tel ou tel point. Mmh. Et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup.
D'accord. Et dans notre jargon, on parle de cadre symbolique, de folklore, d'histoire à vivre. Paul, est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer sur tous ces termes?
Oui, alors effectivement, on parle de ces trois choses-là. Le cadre symbolique, c'est le folklore de la branche. Qui, à l'échelle de vie d'un louveteau, d'un éclaireur ou d'une éclaireuse d'ailleurs, d'une aînée ou d'un aîné, est permanent. On retrouvera pendant toutes ces années le même cadre symbolique dans la branche dans laquelle on est, par exemple la jungle au louveteau ou la route chez les aînés. Et l'idée, en gros, c'est de structurer la progression des enfants autour de figures tutélaires comme les sept animaux, par exemple, ou autour d'objectifs comme l'exploration en branche aînée qui s'intègre bien dans la dynamique de route. Le folklore, lui, il est propre aux unités. Aux meutes, unités et certaines équipes d'aînés. Donc, il ne dure pas dans le temps, il dure une année ou un camp, et chaque unité a son folklore. Et c'est un cadre qui permet de donner un fil conducteur au projet ou au camp. Par exemple, cette année, le folklore d'une meute, ça pourrait être les pirates, par exemple. C'est un cadre général où on sait qu'on retrouvera le pirate en chef, qu'on sera tous sur un bateau, etc. Et voilà. Et l'histoire à vivre, c'est la façon dont s'écrit ce folklore, comment il devient un récit et du coup une aventure pour les enfants. Une fois qu'on a dit qu'on était pirate, c'est bien donc d'avoir un folklore pirate, mais c'est bien de préciser que tout l'objet sera de trouver le trésor qui a été caché sur une île secrète du Pacifique par un ancien très vieux pirate à la jambe de bois, et que il va se passer plein de rebondissements pour qu'on y arrive, que les enfants vont devenir tel personnage, en rencontrer tels autres, mener telle quête, telles actions pour arriver à ce trésor. Ça, c'est l'histoire à vivre.
D'accord. Alors, j'espère que, chers auditeurs, vous y comprenez un petit peu plus quelque chose dans notre jargon unioniste. Et vous, autour de la table, est-ce que vous auriez une recette pour faire un bon imaginaire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour que les enfants soient à fond dedans? Agnès?
Moi, je pense qu'un bon imaginaire, ça commence déjà par un super déguisement.
Mmh.
Avec un responsable qui est son personnage, qui devient son personnage, qui est à fond, qui invente une nouvelle langue, qui invente un super accent, qui peut même avoir un gros ventre parce que c'est le pirate au gros ventre. Et il a vraiment un déguisement qui a un milliard de petits détails, et c'est ça que les enfants vont pouvoir retenir et vont regarder. Et ils vont peut-être pas se souvenir que c'était juste un simple pirate, mais ils vont se souvenir du pirate au bonnet rouge parce que à un moment dans le jeu, ce bonnet aura une signification. Et puis en plus, quand on est vraiment son personnage, du coup, on le fait complètement vivre aux enfants. Et parfois même, on en vient à des personnages qui sont un petit peu secondaires et qui en deviennent principaux parce que les enfants, ils vont tellement adorer ce personnage-là parce qu'il aura eu un super accent, parce que on aura vraiment cru que c'était une sorcière, par exemple, et que c'était une sorcière complètement annexe dans l'histoire et qu'elle devient le centre de l'histoire parce que du coup, ça les a fait complètement rêver.
Donc les enfants peuvent faire évoluer finalement un imaginaire, un folklore préparé par des responsables.
Ah, complètement, oui.
Ah, intéressant, ça. Athénaïs, tu voulais
Oui, parce que enfin, je suis tout à fait d'accord sur les personnages et tout ça. Et il y a une autre chose aussi qui me semble importante, c'est notamment que les responsables se mettent d'accord sur des petits détails. Parce que moi, par exemple, je suis chez les Louveteaux et ils posent tout le temps plein de questions. Et quand on a préparé des questions qu'ils pourraient nous poser, et ils sont tellement étonnés qu'on ait tous la même réponse que je pense que ça les aide à faire rentrer et du coup, ça en fait un bon folklore.
D'accord, du coup vous êtes d'accord sur le fait qu'un personnage doit avoir une histoire,
ouais.
Finalement c'est pas juste un pirate mais lui inventer un passé, pourquoi pas un avenir. D'accord, très intéressant. Paul ?
Ouais, ce que moi je retiens de tout ça, c'est l'idée d'une cohérence en fait. C'est qu'on n'est pas le pirate au gros ventre juste une demi-heure dans le jeu, puis après quand il faut courir on s'allège par exemple. C'est... voilà, un bon folklore, c'est un folklore qui prend dans sa mayonnaise les jeux, la vie quotidienne, les personnages, enfin tout ça. Et un truc qui est souvent oublié, les lieux de camp. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est bien de folkloriser le lieu et de dire qu'au lieu d'arriver, je sais pas, dans une prairie pour passer 3 semaines, bah, on arrive sur un bateau directement. Et pas d'attendre la veillée dans 2 jours pour découvrir ça.
Mmh. Alexis.
Oui. Je voudrais faire le lien entre ce qu'on peut faire en tant que responsable sur l'imaginaire et le théâtre. Titre personnel, là où je fais du scoutisme, t'as en dessous, il y a des spectacles d'improvisation. Il y a tout un groupe de théâtre d'impro. Et il y a énormément de liens entre les deux. Comment est-ce que les acteurs abordent leur pièce d'improvisation et comment est-ce que les responsables eux-mêmes font de l'animation. Et au final, faire de l'animation dans le cadre du scoutisme, c'est aussi se révéler en tant qu'acteur avec les mêmes techniques que l'improvisation. Et je rejoins vraiment sur ce que disait Paul sur la question de pas avoir de coupure. Parce que ces coupures, les jeunes les voient. Voilà. Si on commence à sortir de notre accent, les jeunes perçoivent directement le fait que le personnage n'est pas crédible. Au final, quand on est responsable, on a face à nous un public. Le public, c'est les louveteaux. Et c'est un public très exigeant, extrêmement exigeant, qui n'hésite pas à dire que c'est nul, qui n'hésite pas à critiquer, à pointer les contradictions. Et par là même aussi, et c'est là la force particulièrement chez les louveteaux, c'est le fait que le responsable ne maîtrise pas toujours l'imaginaire. Des fois, on se fait voler, ou pas voler, mais les jeunes se réapproprient cet imaginaire et vont même des fois comprendre l'imaginaire qu'on essaye d'instaurer différemment que nous-mêmes, on le pensait initialement. Et on se retrouve dans des situations assez cocasses, assez saugrenues, où là, le rôle du responsable qui improvise, etc., qui fait du théâtre est très très important. Mais en même temps, à ce moment-là, on a vu que quelque chose fonctionne puisque le jeune s'est approprié notre imaginaire. Voilà. Donc une situation un peu complexe, mais qui en même temps montre que le jeune est vraiment rentré complètement dans ce jeu d'imaginaire.
Yes. Et moi, je pense que c'est même, on doit même chercher ça. On doit même chercher à ce que l'enfant crée lui aussi sa propre histoire. Moi, je me souviens, par exemple, d'un camp que j'avais animé où les enfants, finalement, parce qu'on avait inventé toute une histoire de Wiz City et que c'était complètement intégré dans le folklore, finalement, on avait même eu un louveteau qui, pendant l'explo, avait vu le Wiz City. Et c'était on était très étonnés. On lui a dit, mais ah bon, c'était un Wiz City, mais il est comment? Et il nous avait répondu, bah, c'est comme un Wiz City normal, mais avec des cornes. Et là... Et là, il nous a complètement, stupéfait un petit peu. Et je pense que c'est vraiment ça l'intérêt aussi, c'est que eux, ils en viennent à pouvoir créer, imaginer. Et c'est ça qu'on cherche. On n'est pas juste à faire revivre une histoire parce que c'est rigolo, mais c'est aussi toutes ces capacités d'imagination qui sont super, super importantes. Et qu'en fait, on leur donne pas forcément l'occasion de vivre à ce point. On leur raconte beaucoup d'histoires. On leur montre des films, mais qui sont souvent assez simplistes et un peu trop simples pour eux et qui les poussent pas forcément à imaginer plus. Et là, là, ils sont dedans et ils sont obligés d'y aller. Et plus ils vont avoir d'éléments concrets, et plus ils vont pouvoir s'en saisir pour imaginer eux-mêmes leur propre histoire.
Donc du coup, ce serait finalement dans le scoutisme notamment, où il y aurait une énorme place à l'imaginaire, où les enfants pourraient vivre au plus finalement. Enfin, à l'école, ils vont pas jusqu'au bout de ça. Vous leur permettez, vous responsables finalement, de vivre ça. Alors là, on parle des louveteaux. Les louveteaux, ils s'emballent beaucoup pour le folklore, mais en BM. Alors on fait des grands jeux aussi en BM, en branche moyenne, pour les éclaireurs, les 12-16 ans. Mais est-ce qu'ils sont autant emballés et est-ce qu'ils vivent autant les choses? Est-ce que ça a autant d'importance pour les 12-16 ans? Est-ce que quelqu'un pourrait nous en dire un peu plus?
Moi, je peux tenter d'en dire un peu plus. Je pense que ça a autant d'importance dans le sens où ça reste un de nos outils privilégiés, quelle que soit la branche, pour faire vivre et faire passer des valeurs, des actions, enfin, pour faire passer notre message. Par contre, effectivement, la réception est un peu différente. C'est vrai que quand on est ado, on est un peu plus cynique, on y croit moins. Mais ça reste... C'est pas parce que les enfants vont dire « Ouais, d'accord, on n'y croit pas une seule seconde, c'est incohérent que Dark Vador se soit marié avec Laura Ingalls » ou des trucs comme ça. C'est pas parce qu'ils disent ça que ça ne leur plaît pas et que... qu'ils n'aiment pas s'y projeter. Et je pense que c'est, à ces âges-là, important de se libérer de toutes les obligations qu'on doit avoir par ailleurs, en termes de normes sociales, changements corporels, etc., pour aller investir des territoires qui sont mieux balisés, plus faciles d'accès, et dans lesquels on peut se sentir beaucoup plus libre que dans la vraie vie, entre guillemets.
Agnès ?
Moi, je dirais même qu'il faut encore plus travailler aux éclaireurs, enfin que les responsables travaillent encore plus sur la mise en place du folklore, parce que autant chez des louveteaux, on sort un super déguisement et puis les enfants ils sont à fond et ça y est ils sont embarqués sur le navire, c'est devenu des pirates, etc. Autant chez les éclaireurs, pour les embarquer dans un imaginaire, il faut vraiment y aller franco et donc là il faut les déguisements, la musique, il faut mettre en place tout un décor et je pense que c'est vraiment ce qui va leur parler et ce qui va leur donner envie d'aller jouer. Parce que c'est pas forcément évident aussi, quand on est ado, de jouer de se lancer complètement dans le jeu parce qu'il y a le regard des autres, etc. Et quand il y a ce folklore et cette histoire qui va dedans, avec des équipes, avec des enjeux énormes du genre sauver le monde, des extraterrestres qui débarquent, et ben là, du coup, on les capte et ils ont envie de jouer. Et une fois qu'ils ont envie de jouer, alors là, c'est parti, on n'a même plus besoin de les motiver, en fait. Je pense que c'est vraiment un élément de motivation. Et comme nous, on a besoin du jeu comme un outil pour leur faire apprendre des choses, on est obligé de passer par là et de le faire à fond.
L'adhésion, c'est... Une fois qu'on a leur adhésion, c'est bon. Mais il faut, voilà, comme disait Agnès, mettre le paquet.
Donc du coup, on est obligé d'avoir plein de moyens pour faire vivre ce folklore, ou est-ce qu'on peut un peu bricoler, est-ce qu'il faut
Oui, on peut faire les deux en vrai. Mais le bricolage, enfin c'est pas je pense que l'adhésion qu'on recherche, elle est bien plus liée à la conviction que nous les responsables on va mettre dans notre personnage.
Parce que finalement, excuse-moi, ils évoluent seulement dans la forêt. Enfin, je veux dire, on parle d'extraterrestres. Bon, il n'y a que des arbres, donc.
Oui, non, mais voilà. Mais ça, c'est vrai aussi pour les louveteaux. Enfin, c'est pas parce que on a l'impression qu'ils y croient plus qu'ils s'imaginent qu'ils sont ailleurs que dans la forêt. Mais voilà, je pense que c'est bien plus lié à la conviction qu'au décorum qu'on peut y mettre. Et si on n'a pas le décorum, l'important, c'est d'avoir la cohérence, les bons personnages, un folklore n'est jamais meilleur que lorsqu'il capte aussi les enjeux qui sont intéressants pour les jeunes en question. Si ça leur parle pas du tout, enfin, si je peux ne pas être déguisé et avoir un folklore hyper parlant pour les ados, là ils vont me suivre dans le jeu. Je peux être super déguisé, mais si je leur raconte un truc qui ne leur parle pas du tout, ça va planter.
Alexis, t'es responsable aîné. Et est-ce que vous allez combattre des extraterrestres dans la forêt ?
Je suis un peu embêté par cette question parce que moi, je le fais. Je sais pas si le mouvement me dit trop de le faire, mais moi, je vais beaucoup tuer d'extraterrestres. Pas tuer, combattre les extraterrestres. cet été, concrètement, par exemple, j'ai fait un camp aîné, un camp de tout ce qu'il y a de plus classique, des jeunes qui dorment sous tente, qui font la nourriture eux-mêmes, qui vivent à la dure, comme on peut dire. Et il y avait tout un tas d'animations qui étaient gérées par les jeunes eux-mêmes. Donc on avait 13 jeunes cet été. Et donc, tous les soirs, il y avait un binôme de jeunes qui organisait des jeux. Alors, on est sur du public 16-18 ans, donc avec une certaine réflexion, avec certains objectifs éducatifs, pédagogiques, etc. Mais basé sur un imaginaire, dans leur jargon, du délire, et quelque chose de très important pour eux, à la fois comme un moment où on va se relâcher. L'équipe aînée, c'est aussi des discussions adultes, c'est aussi des réflexions, c'est aussi des fois des choses un peu sérieuses, ou des fois ils ont l'impression peut-être même d'être un peu comme à l'école, c'est-à-dire des trucs assez scolaires, avec une certaine méthode. Et donc l'accès à l'imaginaire permet de relâcher la tension, de rigoler, etc. Et puis aussi, c'est peut-être bête, mais ils s'amusent. Quand on a un aîné, quand on a un jeune qui a 17 ans et qui va jouer à être une princesse, et ben pendant une heure et demie, il va jouer à être la princesse, il va se donner à fond et il n'a pas forcément d'autres cadres dans lesquels il peut jouer à être une princesse. Et eux, ils vont y jouer non pas forcément pour adhérer, mais pour se lâcher. Voilà. Vraiment pour s'éclater, et tous les jeunes vont partir là-dedans, ils vont rentrer à fond dans l'imaginaire. Et probablement même pire que des louveteaux, dans le sens, il n'y a rien plus rigolo que de voir un aîné qui rentre à fond, justement, dans un imaginaire, parce qu'il y va à fond. Il a peu d'espace, au final, dans son quotidien, pour cet imaginaire. Et donc, il l'explore le plus loin, le plus possible. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, notamment, j'insiste là-dessus, pour relâcher aussi la, relâcher la pression.
Du coup, l'imaginaire, il est présent à tout âge, mais chaque enfant, à chaque âge, ils vont l'utiliser finalement différemment, en fait. Très bien, merci. Je vous propose une petite pause musicale et puis après, on va retrouver Paul pour l'interview décalée.
Colore le monde sans feu, sans épreuve ni bombe. Indolore les murs et coule dans le fleuve la facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge. À jamais répand. Phare sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour qui me révèle, en chair de foule, en musicienne, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami. J'en vois de toutes les couleurs, Mauricieux, mes frères s'engagent sur des routes à l'envers, mais là-haut décide, fait le ménage, fait le vide sur la poule. Sur les hommes, comme le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour, il me révèle. En chair de poule, en rue du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami.
Alors, l'interview décalée de ce soir. Agnès, est-ce que tu es plutôt pirate ou plutôt cow-boy ?
Pirate.
Athénaïs, dans la chanson, Jean-Jacques Goldman ira au bout de ses rêves. Mais qu'est-ce qu'il y a au bout des rêves ?
Un arc-en-ciel.
Agnès, rêver d'agir, agir en vrai, est-ce que c'est toujours d'actualité ?
Mais plus que jamais.
Plus que jamais. Athénaïs, est-ce qu'on rêve aussi bien dans un sac de couchage que dans un bon lit ?
La réponse est oui.
Agnès, qui a dit « la vérité est dans l'imaginaire » ?
Le Père Noël ?
Probablement, mais c'était Eugène Ionesco. Athénaïs, c'était quoi ton meilleur folklore ?
Les requins coquins.
Et Agnès, à propos de meilleur folklore, est-ce qu'un folklore schtroumpf en BC serait une bonne idée ?
D'accord, mais avec une grande schtroumpfette.
Une grande, grande schtroumpfette ?
Ouais.
Athénaïs, est-ce que le scoutisme va changer le monde ?
Ça a déjà commencé.
Agnès, même question, est-ce que le scoutisme va changer le monde ?
C'est une certitude.
Très bien, merci à toutes les deux.
Merci Paul pour cette interview décalée. Alors on a vu que l'imaginaire ça fait grandir les enfants, mais est-ce que c'est pas dangereux de vivre trop dans l'imaginaire ? On a parlé de Ouistiti qu'on arrive à voir, que les enfants voient. Est-ce que c'est pas dangereux finalement d'avoir trop de réalité dans l'imaginaire, Alexis ?
Alors moi, je voudrais témoigner en tant que responsable éclaireur. En 2009, on fait un camp sur une thématique, sur la question des migrants, un peu dans une optique de choses qui avaient été faites entre la CIMADE et les éclairs unionistes, et donc d'une sensibilisation et d'une réflexion des jeunes sur la question des migrants, le parcours du migrant, la place des migrants dans la société, etc. Et lors d'un jeu, je me retrouve être policier, et à devoir faire des interpellations de jeunes, parce que voilà, certains jeunes sont en situation régulière dans le cadre de l'imaginaire et d'autres ne le sont pas, et voilà, mon rôle à moi, c'est d'aller faire ça pour faire prendre conscience aux jeunes de la réalité, justement, de la situation compliquée que peuvent avoir les sans-papiers sur le territoire français. Donc on est vraiment là, ici, dans un objectif éducatif clair, qui a sa pertinence, etc. Oui, mais voilà, je fais ça et je finis avec un coup sur la tête d'un jeune qui prend une batte de baseball pour me taper dessus pour pas que je fasse un contrôle d'identité à son ami. Juste après, c'était au bout de 5 semaines de camp. Je sortais d'un camp louveteau juste avant. J'ai l'aveu qui se trouble et là, j'ai peur. Et il y a un autre responsable qui m'emmène aux urgences vérifier que j'ai pas un traumatisme crânien. Au final, j'ai rien eu. Le soir, quand on rentre de ça, on se dit, mince, il y a peut-être un petit problème. Peut-être que là, on allait trop loin. Voilà. Alors, cet exemple est probablement caricatural parce qu'il m'a fait, plutôt par précaution, aller à l'hôpital. Néanmoins, il montre les limites d'un imaginaire qui va trop loin.
Et est-ce que c'est dangereux pour les enfants? Quel parcours font dans leur tête pour qu'ils n'arrivent plus à discerner le vrai du faux, et ils savent que c'est leur responsable qui est en face d'eux, mais pourtant ils l'oublient, Agnès ?
Je suis pas sûre qu'ils l'oublient, mais ce qui se passe aussi, surtout chez les jeunes qu'on peut avoir, c'est que d'une part, alors pour les louveteaux, ils ont confiance énorme en l'adulte, donc si l'adulte leur dit, c'est que c'est vrai, et par exemple, mettre trop de réel dans un imaginaire. On a eu plein d'exemples sur des lettres qui auraient été envoyées par l'extérieur du camp à propos d'un imaginaire qui était une histoire complètement inventée. Ça, pour les enfants, ils peuvent pas faire la différence entre ce qui est du réel et ce qui est de l'imaginaire. Pour des louveteaux, par exemple, c'est pas possible. L'adulte le dit, donc c'est vrai, donc ils peuvent plus faire la différence. Donc, il faut faire... Les éclairs, ils font... Bien sûr qu'ils font la différence, mais ils se font aussi beaucoup embarquer dans l'histoire. Ils sont tellement à fond... Que parfois plaisir, ça dérape. Oui. Voilà, dans le plaisir de jouer, et parfois ça dérape. Et ça, c'est à l'adulte de le gérer parce que les enfants et les jeunes, ils sont dans l'émotion à fond. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est à l'adulte de cadrer, de bien canaliser et d'imaginer jusqu'où ça peut aller pour pas qu'on se retrouve avec des responsables qui se font tabasser ou pire, des enfants qui se font trop peur ou qui se font embarquer dans des choses trop compliquées pour eux.
Mais alors, Paul nous disait tout à l'heure, on n'a qu'à leur dire qu'on arrive tout de suite dans un bateau, sur un bateau. Mais est-ce que finalement, c'est bien ? Où est la difficulté de folkloriser son lieu de camp, qui est un lieu de vie quotidienne, où ils évoluent avec leur, en tant que louveteaux ? Mais en même temps, il y a des traces de folklore.
En fait, le bateau, il a des limites. C'est comme dans la vraie vie. Et, les dérives, c'est de ça... qu'on peut constater, c'est lorsque l'imaginaire prend la place du réel. Là, il y a la dérive qui se glisse. Mais dire qu'on veut faire un imaginaire riche, dense, qui va entraîner les enfants, veut pas dire que on va faire un imaginaire où toutes les règles changent et où chacun et le groupe n'a plus de limites. Il y a un moment où, par exemple. Là, le problème d'Alexis, c'est que peut-être que ça semblait permis la violence dans l'imaginaire qui était développé là autour des migrants, parce que déjà c'est une situation assez violente et voilà. Mais le folklore, il peut s'arrêter aussi quand un enfant prend une batte de baseball pour taper sur un adulte. Enfin, voilà, il y a un cadre, des limites, des règles à poser pour qu'on vive sereinement sur ce bateau, puisque c'était l'exemple, et que ça marche, et que c'est pas parce qu'on est pirate qu'on peut rôter à table, piller des îles, enfin voilà, c'est pas pour ça qu'on a le droit de faire plein de choses.
Donc les adultes doivent être toujours présents et accompagner ces enfants dans l'explication des limites de l'imaginaire, du réel et notamment être toujours garant du cadre dans lequel ils évoluent. Agnès ?
Il y a des petits éléments qui peuvent aider aussi. Par exemple, d'avoir toujours un responsable qui reste en tant que responsable pendant un jeu folklorisé. Donc tous les autres sont des personnages et il y en a un qui reste responsable. Et c'est lui qui va être garant justement du cadre, faire l'infirmier. Et qu'on n'ait pas à demander au chef des pirates de venir dire non à des enfants ou soigner un petit bobo. Et pareil, pour les enfants, ça peut aussi beaucoup les aider d'avoir par exemple un élément de déguisement qu'on met au début du jeu. Donc ça y est, on redevient des pirates ou on redevient des schtroumpfs. Et puis à la fin du jeu, on enlève nos déguisements, on est des louveteaux. Alors bien sûr qu'on peut continuer à imaginer des histoires et se créer des histoires, mais en tout cas sur les jeux, on est... on porte le costume et du coup ça cadre un petit peu.
Alexis ?
un imaginaire doit être limité dans l'espace, ce que disait Paul sur la question du bateau, etc. Mais il doit aussi être limité dans le temps. C'est très important lorsqu'on fait une animation que la césure soit claire pour les enfants. Voilà, on était dans le temps de l'animation, maintenant on est dans le temps de la vraie vie, entre guillemets. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous, la clôture. Et se pose par là même la question des grands jeux. C'est-à-dire qu'il peut nous arriver de faire un grand jeu d'une heure, mais il peut nous arriver de faire des grands jeux qui durent 3, 4, 5 heures, par exemple, dans lesquels on va intégrer des moments de vie quotidienne, par exemple un repas. Et ça va poser énormément de problèmes pour nous en tant qu'éducateurs sur comment est-ce qu'on intègre, par exemple, la gestion de la vaisselle dans le cadre de l'imaginaire, ce genre de choses. Une très mauvaise idée consiste, par exemple, à intégrer un moment de nuit, par exemple, une nuit dans le cadre d'un imaginaire, parce que là, on n'est plus, pour les jeunes, dans l'idée d'un moment qui sert à se reposer, mais on est toujours dans le jeu. Voilà. C'est pourquoi, aux éclairs unionistes, on ne fait pas de jeux qui durent 48, 72 heures, etc. Ça n'a pas de pertinence par rapport à ce qu'on veut faire avec les jeunes.
Paul ?
Oui, l'important, en fait, c'est qu'il y ait des repères sur là où est l'imaginaire, là où il ne l'est pas, et que ces repères soient partagés par les responsables et par les enfants, que les deux sachent à tel moment on n'est pas dans l'imaginaire, par exemple quand on va se coucher, on n'est plus dans l'imaginaire, et ça, si les responsables l'identifient à mon avis bien, il faut que ce repère-là il soit aussi transmis aux enfants, et voilà, c'est une question de savoir se repérer pour trouver ses limites et les limites des jeux, etc.
Merci à tous. Pour notre plus grand bonheur, on retrouve Maxine pour sa chronique.
L'imaginaire, je l'ai rencontré dans mes camps. Mon premier avait pour thème Harry Potter. Je me souviens que pour un des jeux, on devait courir après des mange-morts, les partisans de Voldemort. Mon deuxième, c'était les Grecs. À l'OP, comme d'habitude, deux camps s'affrontaient. Mais là, c'était la guerre de Troie. On avait même construit un cheval de bois. Maintenant que je suis plus grande, je me suis rendu compte que les jeux étaient presque tous les mêmes, mais que grâce à l'imaginaire, on les vivait autrement, que l'on s'impliquait plus. L'imaginaire, c'est un peu comme une sorte de camouflage. L'imaginaire se trouve aussi dans les livres. Lorsqu'on lit, on s'imagine les têtes des personnages, les décors. C'est pour ça que je préfère d'abord lire les livres avant de voir les films. Je vais prendre comme exemple la saga Harry Potter. Avant d'avoir vu les films, j'avais mes personnages à moi. Depuis, quand je relis les livres, dès que l'on parle d'Harry, le visage de Daniel Radcliffe s'affiche dans ma tête. Pareil pour Hermione. Immédiatement, je vois Emma Watson. La morale de cette histoire, c'est que notre imaginaire nous permet d'avoir une vision plus personnelle de ce que l'on fait, de ce que l'on lit ou de ce que l'on croit. Il nous donne plus de liberté, ce qui stimule notre réflexion et nous fait aller plus loin qu'une image ou qu'une affirmation impersonnelle qu'on nous impose. Grâce à l'imaginaire, je choisis ma vision des choses et ça rend la vie plus colorée. La prochaine fois qu'un prof vous enguirlande, imaginez-le en costume de clown et ça passera tout seul.
Merci Maxine, ça marche aussi pour les patrons. Pour... Alors on a beaucoup parlé des enfants là depuis le début de notre émission, mais on est quand même beaucoup d'adultes à faire vivre ce mouvement. Et c'est les adultes, les responsables qui créent cet imaginaire. Et je sais, qu'ils prennent beaucoup de plaisir à se déguiser. Alors comment ça se passe l'imaginaire chez les adultes?
Ouais. L'imaginaire, je crois qu'on le rencontre à deux moments dans le scoutisme en tant qu'adulte, quand on doit le faire vivre sur des camps, enfin des activités. Et il y a un moment aussi, souvent en stage de formation BAFA par exemple, en tant qu'adulte, on finit par jouer à des jeux, enfin à prendre la place que pourraient prendre des enfants. Et là, on retrouve un peu, on retrouve l'imaginaire. Donc voilà, je pense que ça se passe dans ces cadres-là. Après, je crois qu'on reste adulte quoi qu'il en soit. On ne joue pas à être des enfants dans ces moments-là. Et on n'en devient pas. On se rappelle pas nos jeunes années. Enfin, c'est pas pareil. On reste adulte. On reste garant de quelque chose. On reste fidèle à nos objectifs et nos convictions. Mais voilà, il n'empêche qu'on joue et on s'approprie, on développe des imaginaires en tant qu'adulte.
Mmh. Alexis ?
Je pense qu'aux Éclairs unionistes, on est quand même des grands enfants, dans le sens où on est bercé dans cet univers-là. Et il n'est pas question, à travers nos jeux, de nous-mêmes retomber en enfance et d'avoir à nouveau 8 ans. Par contre, je pense qu'il y a un vrai plaisir de la part des responsables aussi d'avoir ces espaces-là dans lesquels on va expérimenter des choses, dans lesquels on va aussi nous-mêmes apprendre. C'est très enrichissant pour un responsable que d'arriver, on est face à 30 louveteaux et il faut qu'on tienne un personnage, etc. Il y a un vrai challenge. Mmh. Et personnellement, je prends énormément de plaisir à faire ça. C'est une vraie tension, c'est une vraie difficulté, mais c'est un vrai bonheur. Et qui vient aussi parce que, voilà, je reste un vrai enfant et qu'on a une satisfaction à avoir 30 louveteaux qui se transforment en 30 pirates et que on a aussi envie d'apporter notre grain de sel à ça. On a aussi envie de construire ça. J'insiste vraiment sur cet aspect. Voilà, on est des grands enfants et les responsables aiment beaucoup rigoler entre eux, construire aussi des délires, on appelle ça comme ça chez les jeunes. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très important dans l'univers du responsable qui, je rappelle pour nos auditeurs, généralement aux Éclairs unionistes est assez jeune puisqu'on est sur des responsables qui ont autour de 20 ans.
Mmh. D'ailleurs, c'est à cet âge-là qu'ils font des stages de formation, Paul Tendlarlet. Alors, on joue parce qu'on apprend à fabriquer des jeux, donc il faut bien des joueurs sur des stages de formation. Mais est-ce qu'on va folkloriser, inventer une histoire au stage de formation? Est-ce que vivre dans un imaginaire comme on vit dans un camp, c'est intéressant?
Moi, ma base BAFA, c'était il y a l'année dernière, et ben on avait les formateurs avaient folklorisé ça sur le thème des pirates. Mais vraiment tout, même la vie quotidienne. Enfin, les bâtiments avaient des noms. On allait dans la soute, etc. Et c'était vraiment bien parce que justement, ça nous donnait des trucs et astuces pour s'occuper après des jeunes, en fait. Mm-hmm. Voir, après, on avait des bilans, savoir ce qui était bien ou pas. Et des fois, ils mettaient des erreurs pour nous montrer qu'il fallait pas le faire. Et mm-hmm. on essayait de s'apercevoir pour qu'on garde l'esprit critique. Et du coup, le fait d'avoir folkloriser le stage, c'était une bonne idée.
D'accord. Et du coup, vous parliez tout le temps en termes de folklore. Alors, au lieu d'aller aux toilettes, vous alliez dans la soute.
Je crois que c'était ça. C'était vraiment ça.
D'accord. C'était pas trop?
Non, ça allait parce que... Enfin, après, je sais pas, ça durait qu'une semaine. Je pense que sur un camp entier, c'est quand même dur à tenir. Mais vu que c'est une formation, il faut que ce soit super concentré. Et ils ont peut-être fait beaucoup, mais... Enfin, c'était vraiment pour nous montrer peut-être tous les trucs et astuces. On n'était pas obligé de tous les réutiliser sur le même camp. Mais voilà, on a vu pas mal de choses.
Paul ?
L'intérêt en stage de formation, c'est... on peut choisir la dose de folklore qu'on met. On n'est pas obligé de tout folkloriser. Et je pense qu'il y a des moments qui ne le sont pas, comme les évaluations, par exemple. J'espère. Ouais. Je pense que c'est aussi une manière de fournir un cadre stimulant à des stagiaires qui peuvent se trouver en difficulté quand on leur dit voilà, il faut que tu fasses un jeu d'1h30 pour 30 personnes. C'est une façon de leur donner un point de départ, des idées, comme disait Athénaïs. On fait pas vivre un folklore sur des stages de formation pour que on s'amuse et pour que on devienne des pirates. On fait vivre un folklore pour donner des éléments aux stagiaires pour progresser dans leur stage. Et une fois revenu sur le terrain, proposer des choses intéressantes.
Et vous qui êtes responsable, qui avez été responsable, est-ce que c'est nécessaire d'avoir vécu en tant qu'enfant des jeux folklorisés pour créer des histoires aux enfants, ou est-ce que on arrive à puiser dans la société actuelle des sources d'inspiration pour faire vivre des jeux de dingue comme ça, Agnès?
Moi, par exemple, j'étais responsable et j'ai jamais été louvette, ni éclaireuse, ni aînée. Mmh. Et pour autant, j'ai pas eu l'impression de manquer de sources d'inspiration. Je pense que c'est pas tant de vivre les choses en tant que louveteau à la façon dont on le vit aux unis, c'est aussi de pouvoir s'inspirer d'un peu tout ce qu'on peut vivre dans notre société. Ça peut être du cinéma, mais ça peut être des livres, des contes qu'on a lus quand on était petit. Et c'est aussi arriver à vivre soi-même en tant que responsable cet imaginaire. C'est sûr que quand on s'imagine vraiment être le personnage et pouvoir le vivre, etc., et ben, qu'on l'ait vécu ou pas en tant qu'enfant, de toute façon, on est à fond dedans.
D'accord. Et puis on s'appuie aussi sur son équipe et on délire avec son équipe et c'est ça qui crée un peu l'histoire.
D'accord. Et du coup, tu as trouvé du plaisir en tant qu'adulte à jouer ?
Énormément. Et pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui suis forcément à l'aise pour jouer au théâtre. J'en ai jamais fait. C'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Mais le fait d'être en équipe, déjà, ça aide beaucoup parce qu'il y en a forcément qui sont plus à l'aise que d'autres, qui nous guident là-dedans. Et puis les enfants, ils renvoient tellement de choses aussi que forcément, on s'appuie sur ce qu'ils vivent.
Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Merci Agnès, merci Athénaïs, merci d'avoir joué avec nous, merci Paul et Alexis, et bonsoir à tous pour une prochaine, merci Maxime, pour une prochaine émission à Noël.
My eye, girl, I never loved one like you.